Tell your girlfriend. Get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
It's 2 o'clock in Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music. Let's first take a brief look at today's weather in Montreal. The weather forecast tells us that it's a pleasant autumn day, sunny, becoming a mix of sun and cloud in the afternoon, with wind gusting at 20 kilometers per hour in the morning from the west, with a high 19, and tonight it's cloudy with a 30% chance of showers and a low 10. You're listening to Montreal Arab at Radio CKT 90.3. For CKT, I'm Sarah Hassanin. On September 30th, residential school survivors and Indigenous leaders prepared for Canada's first National Day for Truth and Reconciliation across different cities in Canada. The federal government announced in June the new statutory holiday would take place every September 30th and build on the momentum of the grassroots-led Orange Shirt Day to commemorate the history and ongoing impacts of the church-run institutions where Indigenous children were torn from their families and abused. The day is a direct response to a call to action from the Truth and Reconciliation Commission. Elsewhere across the country, communities and cities recognize the day with events and ceremonies. Some provinces and territories, such as British Columbia, Manitoba, and the Northwest Territories, followed suit. Quebec and Ontario, however, resisted the idea. And while events are being held in Quebec, Premier François Legault says the province cannot afford to make the National Day honoring victims and survivors of residential schools a statutory holiday. Legault has no intention of making September 30th a holiday because he thinks the province needs more productivity. Legault made the comment on Canada's first National Day of Truth and Reconciliation, which honors residential school survivors and their families. Later in the day, Legault told reporters it would be too expensive to give Quebecers another paid day off work. He says Quebecers have a duty to remember how residential schools damaged Indigenous communities, but he says there are less costly ways to commemorate the past.
C'est très coûteux, puis je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là.
On Twitter, Quebec Solidaire parliamentary leader Gabriel Nadeau-Dubois responded with, and I quote, "What a sad answer. What an outdated view of productivity. Indigenous people deserve a day of remembrance, and people work better when they can rest." His party put forward a motion Thursday, supported by the Quebec Liberal Party and the Parti Québécois, for the province to recognize September 30th as a day to honor the survivors of residential schools, their families, and commemorate the memory of the children who died in those institutions. And in a press release, the Native Women's Association of Canada expressed regret that the day is not being recognized as a holiday equally across the country, making it a shortfall of official recognition.
If everybody knows that this is, the first National Day on Truth and Reconciliation, and they choose to talk about whatever it is they're talking about, it shows that they really don't care about Indigenous people.
People that are gathering, having meetings during our day of reconciliation for the children that were found in for residential schools. I think it's sad that there's no support from the Quebec government.
If the federal government is saying this is a holiday, why are they going against it? You know, I mean, it's not like people don't want to stay home.
And on the heels of talking about the National Day for Truth and Reconciliation in Canada, here's an inspiring story. It's about Dr. Janine Metallic, an Indigenous professor at McGill University, who met John Robert Sillaboy, an Indigenous PhD student, whose dissertation she supervises, and they both had a long discussion about his research. But there was one extraordinary thing about the meeting. It took place not in English nor French. It was all in Mi'kmaq, a potential first not just on that campus, but any campus. Sillaboy's supervisor, Dr. Janine Metallic, has spent countless hours in other dissertation discussions, but she had the same sense of wonder when she switched languages, an immediate sense that speaking Mi'kmaq changed everything. On Twitter, Sillaboy tweeted, "This gives me goosebumps." The offhand tweet was, in fact, a sign of happy longer-term news that most Canadians don't know, and a clue to how they can try to repair the damage from Canada's devastating attempted cultural erasures. Many Indigenous languages have begun a rebound in recent years, a process painstakingly nurtured within Indigenous families and schools across the country. Statistics show how successful these efforts have been. However, cases like Metallic and Sillaboy's are still extremely unusual, with neither of them aware of any other Mi'kmaq-speaking PhD student and supervisor at any university. They both now work within McGill's Department of Integrated Studies and Education, but they come from First Nations, two provinces, and 9 hours apart. Sillaboy is originally from Escassonie in Cape Breton, Nova Scotia. In Mi'kmaq, Cape Breton is called Unamaki, while Metallic is from Listugouche in Quebec's Gaspé Peninsula, which got its name from the Mi'kmaq word Gaspigag. Both grew up speaking Mi'kmaq at home, but that doesn't mean it was always easy to carry that fluency through to adulthood or to a career. When Sillaboy's family moved to Millbrook First Nation, a smaller community not far from Halifax, he was lucky that he was 12 and had spent so much time immersed. Sillaboy learned both French and Spanish and moved to Latin America for about 15 years and came back with such rusty Micmac that his mom took action to help him get things back together again. When he applied to do his PhD, Sillaboy had hoped to get an indigenous supervisor, and he knew it might be Metallic, but he didn't know if she spoke the language. When they first started communicating by email, they used only English, but then they met in person in fall 2018 and made the switch to their indigenous language. Metallic had also done all her schooling in English and French, attending French immersion in New Brunswick. But her parents also made sure she maintained her Mi'kmaq fluency. She has always liked being multilingual. In fact, after huge efforts and some controversial decisions, many Indigenous languages in Canada are rebounding, a damaged link between generations starting to mend. Metallic thinks that we have to open up our imaginations to different scenarios now, because it's like, why not? Now there's nothing to stop it from happening. Maybe the political context is not conducive to that right now, but that can change.
Perhaps you came seeking a new life or to escape war or persecution in your homeland. You came here, leaving everything behind in your homeland, your family, your friends. No matter why you came, you have to adjust to living in a society that's new. Some days are good, other days are bad. Sometimes you may wonder why you came at all. These feelings are normal. Over time, you will probably have more good days than bad, and you will begin to feel more comfortable and settled in your new home. The first 2 weeks I was very excited. Everything was new. Then I found out that it was not easy. It was not as easy as I thought. You've probably heard this a lot from so many immigrants. You've probably been saying this a lot to yourself. Culture shock is the stress caused by living in a new culture. It's a normal part of adjusting or getting used to new foods, languages, customs, people, and activities. Culture shock can affect the way you think and the way you feel emotionally and physically. For example, you might feel irritable, sad, or angry. You may feel that you cannot trust anyone or that you're uncomfortable or homesick. You may have headaches or stomach aches and tire easily. Many newcomers experience culture shock. There's not much you can do to avoid it, but there are ways to cope with it. And the first thing is to recognize that you're going through culture shock and know that it's nothing to be ashamed of. It's a normal reaction to the strangeness of everything around you. As you adjust to living in Canada, your experience of culture shock will change. Culture shock runs in a cycle of several stages, which you may go through more than once. In time, you will begin to feel more at home. Your experience of culture shock may include excitement, then anger and sadness, followed by feeling more settled, and then finally getting into a state of living in two cultures. We're first happy because it's the honeymoon stage where everything's new and different. We like the uniqueness of everything. New places, new foods, even new kinds of music, languages that we're hearing. But then we gradually start to feel angry. We get disappointed, even frustrated, once we find out that there are many things in the country that we're not familiar with. When it comes to daily services, getting things done, finding a job, and all those things. And that's when we start feeling angry. And then after a while, we start to adjust. That's the third step, the third part of the cycle. You start to get used to things. You start to get the hang of things, and you know the ins and outs of the culture. So things gradually start to get better. You start to get settled. You have a job. You earn your own income. You have your family settled. You probably find a house. And things start to fall into place. And then eventually, because you will never forget about your homeland or your culture, you start to develop this neither here nor there state of living, which is basically you are living here and there. You are living with two cultures, two value systems at the same time, two identities. That's the new you. Your mental well-being and ability to settle psychologically in the new culture is just as important as finding a job or buying a house or finding a good school for your kids. And this is exactly what we talk about on our show. Today we're going to talk about making friends in the new culture. Coming to Canada means leaving the familiar people and things from your homeland. These include your family and friends, food, routine, and your place in the community. In Canada, you have to start over, make new friends, and build a new life. It's natural to feel angry, sad, and confused as you build your Canadian life. There are no familiar faces or places to go to. It's not easy to make friends. And when you do meet people, they may have ideas about your life or your country that are not accurate, and it can all make you feel tired and frustrated. But don't give up. You can and will make new friends in Canada. It takes time. It's easiest to make friends with other newcomers as you share the experience of living in a new culture. But that won't be enough for you to integrate into the new culture and create the new life you're dreaming of. Also remember that most of us made friends when we were young. Making friends when you're older is harder. Older people have more routines and are busy with work and family, and therefore they have less time and energy to make new friends. Here is a list of places where newcomers can meet new friends. You could meet new friends during your English or French language classes. I remember that I met a very nice Syrian person. We've become friends, and we only met at the University of Montreal to take French courses. And until today, we are good friends, and my son plays with her son. Here is a list of places where newcomers can meet new friends. You could meet new friends at English or French language classes. I remember that one of my best friends today, Here is a list of places where newcomers can meet new friends. You could meet new friends at English or French language classes. I remember that I've met one of my best friends here in Montreal at the University of Montreal, where we took French classes together. You could also make friends at a church, a mosque, a temple, or any other religious or spiritual place. Volunteering is also a very good idea. It's a highly recommended technique and strategy for you to get to meet people, make small talk, and who knows, you might pick up a friend on your way as you do your volunteer activities on a weekly or a monthly basis. You could also make friends at a sports club or in fitness classes at a community center. You can also meet friends at the local library. You can join a book club or at a community center, at an immigrant settlement agency. Immigrant settlement agencies sometimes do organize some very interesting social activities and cultural activities as well. You could also join a self-help group where people use to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music. It's 22 degrees today, humid, partly cloudy, heading for a pretty sunny and warm long weekend, as Monday is a holiday for all Canadians to celebrate Thanksgiving. Today we start a new episode of Nostalgia, and we'll be talking today about the importance of learning the official languages of the new country we emigrate to. In light of this, we're discussing Quebec's Bill 96. Mr. Mamdouh Meher, a Canadian-Egyptian resident in Laval, will be one of our guests today. Meher has been living in Laval for almost 15 years. In this conversation, Meher reflects on several linguistic diversity issues in Quebec and offers good tips to newcomers for learning and using French. In the second part of the show, we'll be revisiting what we talked about last week, making friends in the new culture. Today, I'm happy to have Mayer and Mourad, two Egyptian newcomers to Montreal, who met each other during a course at John Abbott College and became good friends. They'll share their success stories and secrets to making good friends in Canada. You're listening to the Montreal Arabs at the CKUT Radio 90.3 FM. For CKUT, I'm Sarah Hassanin. According to Citizenship and Immigration Canada, English and French are the two official languages of the country and are important symbols of the Canadian identity. English and French speakers have lived together in Canada in partnership for more than 300 years. Anyone who plans to live and settle in Canada must have adequate knowledge of English or French to become a Canadian citizen. Parliament passed the Official Languages Act in 1969, which aimed to establish equality between French and English in Parliament, the Government of Canada, and institutions subject to the Act, while also maintaining and developing official language minority communities in Canada. Quebec has been a French-speaking province for centuries and is the only province privileged with a judicial exclusivity and an autonomous immigration system that enables the province's government to take charge of all linguistic and cultural integration services it provides to its newcomers as an attempt to preserve the distinctive linguistic, cultural heritage and identity of Quebec. Bill 101 was passed in 1977 in the aftermath of the separationist movement. According to the law, any new immigrants' children to the province must go to a French school as long as neither their parents have been to an English school in Canada. The only exception to the law is if a child has learning difficulties or disabilities. In this case, the Ministry of Education may grant them an eligibility to do their schooling in English. The law applies to elementary and secondary education.
but that might change if Bill 96 becomes a law. So what is Bill 96 all about? On May 13, Bill 96, an act respecting French, the official and common language of Quebec, was tabled in Quebec's National Assembly. Bill 96 aims to further promote the French language and reiterate the formal recognition of French as the only official language in Quebec. It clarifies and reinforces the measures currently in force, introduces new requirements and restrictions, and strengthens the role of the Office québécois de la langue française, the OQLF, the governmental body responsible for ensuring compliance with the Charter of the French Language. The purpose of Bill 96 is to ensure that the government sets an example in the use and promotion of French. In particular, it recognizes the right to learn French, and in the workplace, it is set to force businesses with between 25 and 49 employees to operate in French to ensure that their staff can work in French. Here are some of the ways in which we expect Bill 96 will impact employers and businesses operating in the retail and consumer market sectors. Enterprises will have heightened requirements with respect to their communications in French with consumers as well as non-consumers, and the Quebec government, such as offering goods and services in French, contracts and other documents, registering security, narrowing the existing trademark exception relied upon by many national and international businesses to ensure branding consistency. In the workplace, Bill 96 strengthens and expands on employers' obligations with respect to communicating with employees and prospective employees in French, employees' French language rights, and complying with francization requirements. Bill 96 proposes drastic amendments with regards to non-compliance of the requirements under the Charter, which include the ability to bring a civil action, suspension of government permits or authorizations, and increases in fines from $3,000 to $30,000. Further, the OQLF will gain the ability to request an injunction to force compliance with the requirements of the Charter or a court order for the removal or destruction of posters, signs, or advertisements that contravene the Charter at the expense of the offending business. Regarding college education, a discussion between a group representing Quebec's English CEGEPs and the minister responsible for French took on a constructive tone with them, saying they want more French in the English system, and the minister Simon Jolin Barrette asking how much. The CEGEP representatives also said they agree with the bill's plan to freeze enrollment on their large Montreal campuses, but say capping enrollment for off-island CEGEPs is more complicated because their enrollment is more fragile. Quebec's colleges are throwing their weight behind the Legault government, supporting its decision to allow young French-speaking Quebecers the freedom to choose to attend a French-speaking or English-speaking college as they please. They just have a few changes they'd like to see, including changing the proposed cap on English language college admissions from 10 years to 3. Overall, the Fédération des Cégeps said Tuesday that it believes that measures based on coercion are not likely to nurture ambition and a feeling of belonging around the common language. The Federation presented its brief to provincial legislators as part of the consultation conducted around Bill 96, which proposes a vast reform of Bill 101, otherwise known as the Charter of the French Language. Controlling access to English language CEGEPs is one of the main issues that has attracted the attention of various experts who have come to testify on Bill 96, which is sponsored by Justice Minister Simon Jolin Barrette. Many have said they believe that attending CEGEP in English promotes the anglicization of young people and determines the trajectory of their future university and professional careers. They would have liked the government instead to curb the English language's appeal to young people by extending Law 101, which is currently reserved for primary and secondary school, to the college level. That would mean that only children born to parents who studied in English would have access to the English school. Instead of prohibiting this access, the government has instead chosen to cap the proportion of English language college admissions within the total province-wide admissions at the 2019 level, which is 17%. That regulation is proposed to last for a decade. The Federation counter-proposed that 3 years would be more suitable. Concerning reactions to Bill 96 in Montreal, mayoralty candidate Valérie Plante said she does not want Montreal to become a bilingual city and fully supports the Legault government's Bill 96 overhauling the Charter of the French Language. With hearings into Bill 96 entering this last week at the legislature, Plante appeared before the committee via video conference. Off the top, she stated clearly that she endorses the bill. Plante went on to say under her administration, the city created an action plan to give French its rightful place back in the city at the same time as being inclusive of Anglophone and Indigenous communities. You're listening to Montreal Arabs at CKUT 90.3 FM. For CKUT, I'm Sarah Hassanin.
Mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu, soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire, si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
As a new immigrant, one of your first priorities is to learn English and French. Speaking the language opens up the society to you. Your level of English and French affects the jobs you can get and your ability to continue your education. It's not easy to learn a new language. You can share your opinions and tell jokes in your native language. But in English or French, you may find it hard to tell people what you're thinking or feeling. This can be frustrating. You may become nervous about speaking to other people. You may be afraid that they will think that you're stupid. It's normal to feel this way when learning a new language. It may help you to know that many people who were born in this country also make mistakes with their own English and French. In time, you will become comfortable with English and French, and you may even speak and write the two languages more accurately than native speakers. Many newcomers go to language instruction centers for newcomers in Canada to learn English and French. Here, they're also very likely to make new friends. You may be a newcomer whose first language is for English or French, but you may speak it with an accent or in a dialect that's unlike Canadian English or French. You may find that a word or term that you use in your homeland has a different meaning here, different enough to cause confusion, and this may make it harder for others to understand what you're saying, and for you to understand them, and it can be frustrating. Allow yourself to make mistakes as you learn English and French or as you get used to the Canadian accents. Most people understand that learning a new language takes practice. They will admire your effort. Try to accept or laugh at your mistakes and misunderstandings. Don't try to correct every single mistake every time. Be gentle with yourself. Today, I'm happy to talk to Mr. Mamdouh Maher, an Egyptian citizen who grew up in a Francophone community back in Cairo. He graduated from the Les Frères Fraternity French School and has loved the French language since his earliest years. In 2009, he decided to come to Quebec with his family. Thanks to his French proficiency, not to mention his perseverance and hard work, today he's a success story with a thriving career. Mr. Maher is all for Bill 96, and he explains why. He also strongly maintains that newcomers to Quebec should take learning French more seriously in order to integrate successfully into the province.
Mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent.
Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?
Je vis ici au Québec depuis que je suis venu ici immigrer en 2010, c'est presque 11 ans et plus.
Et c'est où exactement au Québec?
J'ai venu à 2 semaines à Montréal, mais après toute ma vie, je vivais à Laval. Laval, c'est le nord du Québec. Mm-hmm. Le nord de Montréal, je m'excuse.
Laval a été connu pour être une communauté francophone.
Oui.
Est-ce que c'est encore le cas maintenant?
Non, ce n'est pas le cas. Quand on est venu ici en 2010, je veux vous dire que les immigrants qui ne savent pas le français, ils ont eu peur de venir à Laval à cause que Laval parle seulement le français. C'était tout le monde, il dit ça. Mais maintenant, désolé, Laval ne parle pas le français. La première langue, c'est l'anglais et l'arabe encore. Mais le français a commencé à diminuer beaucoup à Laval.
Pourquoi?
Parce que les 2, 3, 4 dernières années, il y avait beaucoup d'immigrants, des immigrants et des réfugiés qui sont venus à Laval. Ces gens-là ne parlent pas que l'arabe, ou ils parlent surtout de la Syrie. Ils ne parlent pas que l'arabe ou ils parlent l'anglais encore. Alors, ils ont commencé parce que Montréal, comme vous savez, une ville tellement bloquée maintenant, il n'y a pas de place. Mm-hmm. Alors, ils viennent ici pour vivre à Laval. C'est un peu ouverte. Alors, ils ont commencé à prendre, à acheter ici beaucoup de maisons. Et comme beaucoup de populations, alors ils ont parlé seulement l'anglais et l'arabe. Mm-hmm.
On discute aujourd'hui le projet de loi 2416. Did I say? Sorry, no. Okay, 80. Sorry. Okay, j'ai menti, j'ai dit. On discute aujourd'hui le projet de loi 96. Quelle est votre opinion sur le projet de loi de 96?
Je peux vous dire quelque chose, Madame Sarah, parce que si maintenant vous allez, par exemple, vivre chez quelqu'un à sa maison, est-ce que vous devez l'obliger à faire quelque chose qui ne sait pas ses habitudes, qui ne sait pas ses langues, qui ne sait pas sa manière de vivre? La réponse, c'est non. Ça veut dire maintenant, la province ici était au Québec, tout le temps c'était français. Ici, vous regardez les anciens Québécois ici, ils ne parlent pas l'anglais du tout parce qu'ils n'avaient pas l'anglais dans les écoles. Seulement était le français. Depuis, l'anglais a commencé, ils l'ont mis dans les écoles. Maintenant, parce que l'anglais, c'est un peu facile, ils ont commencé à parler l'anglais, le français a diminué. Mais ce n'est pas le cas parce que Québec, tout le temps, était une province française. C'est un francophone. Mais on ne peut pas l'obliger à être une province anglaise comme les autres provinces. Ils ont le droit de protéger la langue. Autre chose, vous saviez, à Ontario, ils ont lancé une loi pour enlever le français du tout.
Oui, je
Alors,
sais.
il y a beaucoup de manifestations pour ça, mais quand même, ils l'ont fait. Alors, pourquoi? Quand je voyage à l'Ontario, à Toronto, for example, par exemple, on ne trouve personne qui parle le français là-bas. Et nous sommes obligés à parler l'anglais seulement.
Oui.
Alors, pourquoi le cas à Québec, ils veulent l'obliger à parler les deux langues, tandis que Québec, il y a ici l'anglais encore. Quand vous rentrez dans n'importe quelle place, il vous dit bonjour, hi. Il ne dit pas hi seulement. Mais dans les dernières années, maintenant, l'anglais est plus. Je vois beaucoup de places qui ne parlent que l'anglais seulement. Surtout avec les Pakistanais, avec les Syriens qui sont venus. Ils ne parlent pas que l'anglais. Alors, ils ne disent pas bonjour, ils disent hi seulement. Et vous êtes obligé dans une province France francophone de parler l'anglais. Ça, c'est bizarre. Alors, je pense que moi, je suis avec la loi 86.
Merci. Monsieur Mamdouh, pensez-vous que le gouvernement du Québec offre suffisamment de services en français et d'intégration culturelle à ces nouveaux arrivants?
Oui, je pense que oui. Ils font tout leur possible pour éduquer le français à tous les nouveaux immigrants. Mais le problème, ce n'est pas dans le gouvernement. Le problème, c'est dans les immigrants. Vous saviez pourquoi?
Pourquoi?
Parce que les immigrants, ils prennent ça comme des revenus pour eux seulement. Ils s'en foutent de la langue. Ils s'en foutent qu'ils apprennent quelque chose. Et moi, je connais plein de gens, immigrants, qui sont venus. Ils rentrent à la francisation pour seulement le 500 dollars ou 460 dollars que le gouvernement donne par mois. Seulement. Comme des revenus qu'ils peuvent vivre avec ces revenus-là. Mais ils n'intéressent pas de prendre. J'ai vu devant moi des cas comme ils demandent de répéter, de refaire le deuxième niveau, par exemple, pour être sur le subvention. Il ne veut pas finir les trois cours pour sortir. Alors ça, c'est bizarre. Le problème dans les immigrants n'est pas le problème dans le gouvernement. Mais le gouvernement, je pense, il donne beaucoup de services, il fait beaucoup de choses à maintenir la langue.
Et quand vous dites que les nouveaux immigrants ne sont pas intéressés à embrasser la culture française, pourquoi viennent-ils alors au Québec?
Oui, c'est une bonne question parce que vous saviez depuis le début que Québec, c'est la meilleure province pour immigrer. Il y a la facilité ici pour immigrer. Si par exemple, vous faites un dossier fédéral, ça prend beaucoup de temps. Mais avec Québec, ça ne prend pas du temps. Mais ça, c'est ici, c'est la faute du gouvernement qu'elle accepte les immigrants sans avoir le français. Et j'en ai des cas ici tellement bizarres, je peux parler avec toi franchement. Je sais des cas qui ne savent pas le français ni l'anglais encore. Ils ne parlent pas de langue du tout. Et ils ont immigré à Québec. Et leur papier était à Québec. Il était approuvé ici à Québec. Et ça, c'est tellement bizarre. J'en ai quelqu'un qui m'a raconté que l'entrevue qui a été faite avec l'ambassade là-bas a été faite avec un traducteur. Parce que lui, il ne parlait pas ni le français ni l'anglais, ils ont ramené un traducteur. Alors pourquoi le gouvernement de Québec a accepté ça? Ça, c'est tellement bizarre. Pourquoi le gouvernement accepte des gens qui ne parlent pas le français? Ça, c'est tellement bizarre. Mais les immigrants, ils le prennent parce que c'est facile. Deuxièmement, parce que le Québec n'est pas cher comme les autres provinces. Ça veut dire qu'ils viennent ici, ils louent un appartement à 600 dollars ou 700 dollars. Dans les autres provinces, c'est 1200, 1400. Même les voitures, l'assurance, par exemple, vous pouvez acheter une voiture avec une assurance, un seul côté 30 dollars ou deux côtés à 60, 70 dollars. Là-bas, c'est 500 dollars ou 350 dollars. C'est tellement cher. Québec n'est pas cher comme ça. Alors, ils choisissent ici pour ces deux raisons, que les dossiers, ça sera traité tellement, tellement vite. Et deuxième chose, la province ici n'est pas chère du tout. Mais comme je vous ai dit, c'est la faute du gouvernement.
Et comment expliquez-vous le manque de motivation à apprendre le français?
Du gouvernement ou des immigrants?
Des immigrants.
Oui, je vais vous dire pourquoi. Les immigrants, parce qu'ils viennent, ils ne pensent pas dans leur avenir. Ils pensent qu'ils ont venu ici, alors ils veulent vivre seulement. Alors ils pensent pour l'argent, ils ne pensent pas à autre chose. Mais ça, ce n'est pas correct, parce que s'ils pensent à gagner leur vie bien, pour travailler bien, ils doivent apprendre la langue tellement bien. Mais comme les immigrants, ils ne pensent pas que seulement ils nous sont venus au Canada, au Québec, alors on veut vivre. Pour vivre, c'est le minimum 1 200 $, par exemple, par mois, avec les subventions des enfants. Et ils vivent bien. Je connais des familles qui vivent tellement bien ici, pas à cause qu'ils ont 3 enfants, par exemple, enfin, avec les subventions gouvernementales, c'est à peu près 1 500 $. Et ils travaillent des travaux comme ça dans Tim Hortons ou n'importe quoi à 1 200 $. Alors ils gagnent à peu près 3 000 $ par mois. Ils vivent tellement bien. Alors ils ne pensent pas à faire autre chose. Ça, c'est tellement bizarre.
Et quand avez-vous commencé à apprendre le français, Monsieur Mamdouh?
Moi, j'ai appris, j'étais chanceux parce que j'ai appris le français. J'étais dans des collèges, écoles françaises depuis le début, depuis le maternel. Et quand j'ai continué à l'université encore d'apprendre le français commercial et après, j'ai travaillé avec des compagnies françaises. Moi, j'étais chanceux, mais je connais plein de personnes qui ne savent pas le français de leur vie, mais ils ont commencé le français, par exemple, 35 ans ou 40 ans, et maintenant, ils parlent bien le français. Et je connais plein des immigrants, parce que vous saviez, comme je travaille à l'assurance, je rencontre beaucoup de gens. Alors, je connais plein des immigrants qui sont venus, ils avaient l'air d'apprendre le français. Oui, ils ne parlent pas tellement bien comme les Québécois. Moi aussi, je ne parle pas comme les Québécois. Mais quand même, maintenant, il peut négocier quand même avec le français. Il peut travailler avec le français. Et je trouve plein de monde avec leur français qui n'est pas tellement fort, mais quand même, ils communiquent, ils parlent, ils travaillent avec ce français-là. Et le plus important, c'est qu'ici, les gens, ils acceptent ce niveau-là, même s'il n'est pas un niveau supérieur dans le français, mais ils l'acceptent. Il le traite bien. Et dans notre travail, j'ai vu une madame qui était de l'Amérique du Sud. Et le français n'était pas tellement correct. Elle ne prononce pas les mots tellement corrects. Et elle était directrice dans la compagnie chez nous. Directrice. Ça veut dire ici, les Québécois, ils l'acceptent. Ils ne disent pas non. Même avec un niveau moyen de langue.
Votre attitude envers le français aurait-elle été différente si vous aviez dû l'apprendre plus tard dans votre vie d'adulte, comme beaucoup d'autres immigrants?
Pour moi, non. Moi, je pense différemment. Moi, je pense quelque chose de tellement important. Si, par exemple, vous êtes dans une entrevue de travail avec un autre collègue, et l'entrevue, tu as les mêmes qualifications que l'autre collègue, même niveau universitaire, même qualification exactement. Mais toi, tu as 3 langues, lui, il a 2 langues. Ou toi, tu parles 2 langues, lui, 1 langue. Alors, ils vont préférer ceux qui ont des langues en plus. Alors pour moi, même si je ne connais pas le français, je pense que quand j'ai dû venir ici, je veux apprendre le français parce que c'est quelque chose de tellement important d'apprendre, pas seulement le français, d'apprendre plein de choses. On vit pour apprendre. La vie, c'est comme ça. Tu dois apprendre toujours. Pas seulement arrêter à quelques niveaux et c'est fini. Non, tu dois apprendre beaucoup. Alors, moi, si moi, je ne connais pas le français, j'ai dû l'apprendre ici et continuer jusqu'à la fin pour parler le français bien. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait une vidéo parce que moi, j'ai une chaîne sur YouTube et j'ai fait une vidéo pour apprendre le français pour les nouveaux immigrants. Et j'ai dit, c'est un moyen tellement facile. Tu apprends le français dans cinq seulement étapes. C'était facile. Mais la première étape, c'était la volonté. S'il a la volonté d'apprendre la langue, il va le faire. Sinon, parce que je trouve plein de monde qui dit non, c'est dur, c'est difficile, la grammaire, c'est difficile, ta, 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 ta. Mais c'est pas correct. Parce que nous, on n'apprend pas le français pour lire et écrire. On ne va pas travailler comme enseignant pour éduquer le monde. Mais apprend le français pour parler seulement, le français pour discuter avec le monde. Et ça, c'est pas grave à l'apprendre, c'est pas dur. J'ai mis 5 points pour le faire, 5 étapes. Si chacun, il va le faire vraiment, il va apprendre le français dans 6 mois. C'est pas tellement grave, mais il doit le faire tous les jours.
Pensez-vous que la langue française est présentement en danger?
Au Québec ou partout au Canada?
Au Québec particulièrement.
Au Québec, oui, c'est en danger, vraiment. Parce que, Yanni, pensez dans 10 ans, qu'est-ce que ça va passer? Dans 10 ans, tous les anciens, les hommes et les femmes âgés, s'ils décèdent, alors vous trouvez seulement les jeunes qui ont 40 ans et plus, par exemple, les moins, ou 50 ans ou moins. Ces gens-là parlent l'anglais et le français en même temps. Je trouve que les jeunes dans l'université, ils ne parlent pas le français, ils parlent toujours l'anglais. Pour eux, c'est facile, c'est une manière facile. Mais ils parlent toujours. Dans 10 ans, vous allez trouver que la langue ici, c'est l'anglais, c'est pas le français. Et ça
Oui.
va détruire la langue du tout, la langue française. Alors le gouvernement, elle a commencé par la loi 96, mais il y a d'autres choses, beaucoup de choses à faire encore. Elle doit diriger bien ses décisions pour ça. Parce que si elle va continuer comme ça, dans quelques années, on ne trouve pas le français ici. Et maintenant, au Canada au complet, il n'y a pas beaucoup de. Presque toutes les provinces parlent l'anglais, sauf le Québec et le Nouveau-Brunswick, par exemple, et le Nova Scotia, deux, trois provinces. Et pas beaucoup encore. À Ontario, par exemple, vous ne trouvez pas que un peu de monde qui parle le français, mais le reste, ils parlent l'anglais seulement. Tandis qu'il y a des écoles là-bas catholiques pour le français, mais ce n'est pas suffisant quand même dans l'Ontario. Tout l'Ontario, ils parlent l'anglais. Ça, c'est tellement bizarre. Même, vous saviez, les villes qui étaient françaises de Québec, comme par exemple Housbury, Cornwall, qui était à côté de Québec, et c'était maintenant avec l'Ontario. Maintenant, c'est fini. Elle commence à parler encore l'anglais. Pas beaucoup de français là-bas. Il y a des gens, les âgés seulement, ils parlent le français, mais tout le reste, ils parlent l'anglais. Alors, c'est le français est en danger ici et partout au Canada encore.
À tout nouvel arrivant au Québec, quel est votre conseil?
Je veux lui dire quelque chose. Si tu as choisi de venir à Québec parce que le dossier est facile à traiter et tu vas vivre ici parce que ici c'est moins cher, continue et vis comme le Québec elle demande. J'en ai quelqu'un qui est venu et je lui ai donné un conseil. Celui-ci était un médecin et il est venu ici, mais vous saviez, à Québec, c'est tellement dur de travailler tout de suite. Il doit faire des études. Et c'est dur pour quelqu'un qui a 40 ans. Alors lui, il était tellement fâché de Québec, il a dit, non, ce n'est pas une belle province, c'est comme un rêve. Moi, je suis réveillé de cette rêve-là, ce n'est pas correct, je veux retourner à mon pays et tout ça. Alors moi, je lui ai dit quelque chose. Quand tu as demandé d'émigrer, c'est le Québec qui t'a demandé, ils t'ont dit, s'il vous plaît, venez chez nous. Ou c'est toi qui tu as essayé beaucoup pour venir ici? Il m'a répondu que moi, j'ai essayé de venir ici. Je lui ai dit, OK, pourquoi maintenant tu ne veux pas vivre comme il veut? Pourquoi tu veux vivre comme ta tête? Tu dois laisser ta tête à ton pays et toi, tu dois vivre aux règles qui sont là. Alors lui, il a fait comme je lui ai dit exactement. Il a rentré un programme relié au programme des médecins qui s'appelle Quality Control et il a réussi. Et en même temps, il a appris le français dans l'université et le gouvernement, ils l'ont donné la subvention, vous saviez, le pré-bourse. Et en même temps, il a trouvé un travail et après qu'il a fini, il a travaillé tellement bien avec ce diplôme qu'il a pris. Et maintenant, il est marié, il a des enfants, il vit tellement bien. Alors, tous les nouveaux immigrants, je leur dis, s'il vous plaît, laissez votre tête à votre pays et vivre ici comme le gouvernement te demande. Ça veut dire, s'il demande d'apprendre le français, apprends le français. C'est un avantage pour toi, pas
Oui.
des avantages. C'est un avantage. Quand tu as 2 langues, 3 langues, c'est un avantage. Deuxièmement, si ton diplôme universitaire ne correspond pas ici, c'est tellement facile. Le gouvernement ici, c'est presque le seul gouvernement qui aide les gens à apprendre. Je trouve dans les autres provinces, il ne fait pas ça. Mais si tu as, par exemple, 50 ans et tu veux apprendre d'être médecin, ils vont t'accepter, ils vont te donner des subventions, ils ne vont pas dire non. Alors, apprendre ce qu'il fait, ce qu'il demande, apprendre le français, apprendre des diplômes, ne demande pas de travailler, même travail. Tu peux le faire et tu peux changer quand même ton carrière tellement, tellement. Et c'est facile ici à le faire. Et après, tu travailles avec le français et l'anglais, pas de problème. Tu vas vivre tellement bien ici comme un empereur.
Et enfin, monsieur Mamdouh, qu'est-ce que vous pensez de mon français? Est-ce que
C'est tellement
c'est
bien,
bien?
Sarah. Tellement bien. Mais le problème, tu sais, Sarah, le problème qu'on doit pratiquer tous les jours. Le français, c'est comme par exemple, tu conduis une voiture. Si tu vas, ne conduis pas la voiture pour 1 an, 2 ans, le temps que tu vas commencer encore une fois à conduire, ça sera dur pour toi. Même chose, les langues. Les langues, tu dois les pratiquer toujours. Moi, quand même, j'ai un problème dans l'anglais parce que je ne la pratique pas. J'ai appris l'anglais depuis que j'étais enfant, mais maintenant, je ne le pratique pas. Ça, c'est un problème. Tu dois le pratiquer. Mais si tu vas le mettre dans ta tête que tu veux pratiquer ça, et oublie-toi ta langue, oublie l'anglais, et quand tu rentres à un magasin, ça j'ai dit dans mon vidéo, quand tu rentres à un magasin, oblige-toi à parler le français. Tu vas le pratiquer. Entends les chansons, comme j'ai dit, et chante avec ces chansons-là comme exactement le chanteur qui dit. Tu vas apprendre. Les expressions, la langage, l'orthographe, tout, ça sera correct. Mais tu es merveilleuse, Sarah.
Merci, monsieur Mamdouh.
Yeah.
Je vais essayer. Et c'est la même situation avec toutes les langues en général.
Exactement.
L'exemple de conduire une voiture, c'est un bon exemple.
Exactement, Sarah.
Merci pour votre temps. Et
Merci à vous.
thank you. It's been my pleasure.
You are most welcome.
Thanks for joining us today.
You're welcome. Okay, bye bye.
Bye.
That was Mamdouh Maher, an Egyptian Francophone citizen from Laval. You're listening to the Montreal Arabs at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Coming up next, they met each other at a college to study accounting. Their classes came to an end as they graduated school, but their friendship only started. Today I'm happy to meet Mayra Mourad, two Egyptian newcomers to Montreal, who will tell us more about the secrets of making good friends in a new culture after having left their homelands and old friends behind. Stay tuned.
جاي من بلاد البعيد لا زد ولا ميه وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي وانت تقوليلي بحبك تحبي ايه فيا وده حب ايه ده اللي من غير اي حر لا
stage, armed with their repertoire of ancient criminal tunes from Moldova, Morocco, Greece, Ukraine, Poland, Argentina, Afghanistan, Russia, and Mexico. Orquesta Criminal is a 10-piece of improv performers interpreting inspired renditions of adventurous gangster songs from a dangerous and forgotten era. Saturday, October 16th at The Ritz. Orquesta Criminal with special guests, Meduse. Tickets $15 in advance at bluesguysturnblack.com, $20 at the door. Doors at 6:30, a co-presentation of CKUT.
Sam's excited to see his favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the Gouvernement du Québec.
Il était une fois un petit garçon appelé François. Cet enfant habitait dans la grande ville de Montréal avec ses parents. On était en été et ce jour-là, notre petit homme s'ennuyait beaucoup parce qu'il n'avait personne pour jouer avec lui. Tous ses amis étaient partis à la campagne. Son grand-père, qui l'aimait bien, lui dit
« Et si nous allions visiter le Jardin des Merveilles aujourd'hui, mon petit François, hein? »
Le Jardin des Merveilles, grand-père? Au parc La Fontaine?
Mais oui, mon petit, et je suis sûre que tu t'amuseras.
Et François...